Pépite.
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 Le podcast du Master MTI.
Pépite.
Aujourd'hui, Pépite rencontre Emma Puech-Hélin. Pour ma part, je connais Emma depuis quelques années. Elle était, tout comme moi, élève à la faculté de sciences pharmaceutiques de Toulouse. On n'était pas dans la même promotion, mais nos chemins se sont croisés plusieurs fois grâce à notre très chère amie commune, Marie. Aujourd'hui, elle est bientôt docteur en pharmacie et elle est élève à l'École des hautes études en santé publique. Elle est aussi photographe engagée. Avec Emma, on a parlé couleurs, corps et mouvement. Et on a aussi parlé de vulve, de douleur et de silence.
Pépite.
Bonjour Emma.
Bonjour Marie.
Comment tu te sens ?
Je me sens très bien, très à l'aise chez toi, mais aussi un petit peu stressée à l'idée de parler, de prendre la parole.
Je comprends. Donc, on se connaît depuis quelques temps maintenant.
Oui.
Je suis un peu ce que tu fais sur Instagram.
Oui.
Tu partages pas mal de portraits.
Oui.
Mais c'est des portraits un peu particuliers, parce que c'est des portraits au travers du corps. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est très intime, c'est très doux, c'est très coloré aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et comment est-ce que ce projet est né ?
Ok. Alors, de quoi il s'agit ? En fait, il s'agit surtout de photographies de corps et de morceaux de corps. Je travaille beaucoup en fragmentant les prises de vue et en isolant les endroits qui m'émeuvent chez les personnes que je rencontre pour ces photos. L'idée, en fait, c'est de représenter un petit peu le corps autrement et d'offrir ces photos aux personnes que je rencontre qui me permettent de m'exercer sur elles et de faire des petits tests un petit peu sur ce que je perçois, de ce qu'elles aiment montrer ou au contraire ce qu'elles dissimulent et essayer de jouer un peu avec ça. Et donc, j'utilise des couleurs et j'utilise en fait des voilages, des foulards derrière lesquels je me cache et je cache mon objectif pour créer en fait une sensation de photo presque volée, un peu à la dérobée. Et donc cette ambiance que tu dis intimiste vient certainement de ça. Voilà, donc en fait l'idée c'est de faire des portraits à la fois des visages, mais aussi des morceaux, des parties de corps, donc de faire un puzzle de ces gens-là.
Comme une mosaïque.
Ouais, voilà.
Et donc, c'est des gens que tu connais à chaque fois ou...
Pas du tout. Il y en a certains que j'ai rencontrés que pour les photos, que j'ai jamais revus après. D'autres avec qui je suis devenue très, très, très amie. Et d'autres personnes qui étaient mes amies de base et qui m'ont permis de m'exercer beaucoup. Parce que c'est toujours délicat de rencontrer des gens pour faire des photos. Tu sais pas trop ce que ça va donner. Tu sais pas trop si tu vas réussir à mettre l'autre à l'aise. Donc, souvent, j'ai commencé mes séries photos sur des personnes que je connaissais déjà et qui me faisaient confiance. Assez pour se prêter au jeu.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ces photos-là, cet art-là, est engagé ?
Oui, alors je pense que ça, c'est engagé à partir du moment où tu mets une idée derrière et où tu mets une volonté de traduire quelque chose. Moi, je suis une femme et je prends en photo souvent d'autres femmes ou des personnes qui s'identifient soit femme, soit autrement que cisgenre. Et en fait, c'est aussi donner une représentation de personnes qui ne sont pas des mannequins ou qui ne sont pas recrutées pour leur image, mais justement, en fait, montrer des gens de la vraie vie, des gens qu'on peut croiser dans la rue, qu'on peut fréquenter, et en fait, s'éloigner des représentations très lisses et très normées. Donc, de là, c'est engagé. Ensuite, j'ai pas d'association derrière, j'ai pas une cause à défendre en particulier, à part juste réinvestir les médias et montrer d'autres personnes que celles qu'on voit, qui se ressemblent beaucoup au final en fait.
Super.
J'aimerais aussi, moi, parler de la dimension du modèle et de son rapport au corps.
Ouais.
J'ai vu beaucoup de femmes te remercier de ces séances photos.
Ouais.
Est-ce que tu peux un peu parler de cette peut-être réappropriation parfois?
Ouais. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, moi, c'est pas du tout un truc que j'attendais de recevoir, en fait. Lorsque j'ai commencé mes photos, justement, c'était moi qui étais dans la position de remercier, de m'avoir fait confiance, d'avoir pris du temps pour que je puisse m'exercer, pour que je puisse tester des choses. Vraiment, j'avais l'impression d'être sur un mode de privilège et que d'autres personnes me rendaient service en devenant mes cobayes, en fait. Et en retour, quand j'ai envoyé des photos, j'ai eu des témoignages et des personnes qui me disaient que ça leur avait vraiment fait beaucoup de bien, que ça avait été un moment déjà pendant la séance qui leur avait fait du bien parce que c'était être regardé différemment, c'était prendre du temps pour soi, c'était très calme. Aussi, on parle souvent beaucoup de sujets dont on ne parle pas tous les jours quand on rencontre quelqu'un, le rapport au corps, comment on se perçoit, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de nous, comment on a envie d'être perçu aussi. Et en fait, il y a donc ce moment-là qui visiblement est bénéfique et parfois même un petit peu thérapeutique. Et ensuite, il y a la réception des photos. Et là, c'est une deuxième étape qui, visiblement, est très bien accueillie, souvent. Alors que je pense que c'est quand même assez violent de recevoir des photos. Et je trouve que c'est assez difficile de se voir. Et d'être confrontée à son image, je trouve que c'est quand même un sacré exercice. Et en fait, à chaque fois, ça s'est très bien passé. J'ai eu de très bons retours et les personnes me remercient beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc, voilà. C'est très motivant.
Il y a la mise à nu, la première mise à nu face à l'objectif et presque une deuxième mise à nu avec la réception des photos ensuite.
Mm. C'est une double mise à nu, c'est sûr, parce qu'en fait, déjà, tu t'exposes physiquement. Et moi, ce que j'aime bien faire, en fait, pendant mes séances, c'est poser des questions aussi, parfois un peu intimes. Évidemment, je demande toujours l'autorisation de poser des questions et je n'attends pas forcément de réponse, c'est pas obligatoire de me répondre. Mais du coup, ça permet de creuser des sujets, de soulever des débats. Et en fait, on se rend compte qu'on va sur des terrains qui sont inédits et des personnes qui ne pensaient pas du tout être capables de montrer telle ou telle chose d'elles-mêmes ou de prendre telle ou telle pose ou d'enlever tel ou tel vêtement finissent par le faire très naturellement et me disent « putain, je ne me sentais pas du tout capable de le faire » et je le fais avec beaucoup d'aisance. Donc, c'est que c'est assez naturel au final, quoi. Juste dans les bonnes conditions.
Une rencontre avec toi, une rencontre avec soi-même aussi.
Ouais.
Donc très beau, très chouette.
Ah, c'est un honneur si c'est le cas en tout cas.
Oui. Et ensuite, parfois, donc il y a la publication sur les réseaux.
Ouais.
Donc ça, est-ce que c'est systématique ou non?
Il n'y a aucune obligation, c'est vraiment la condition première de faire ces photos, c'est que j'en ai rien à faire que ça finisse sur les réseaux, j'en ai rien à faire de les publier, c'est pas mon travail, je compte pas en faire mon travail, je compte pas être rémunérée pour ça un jour. Donc en fait, les photos, elles sont à destination de la personne qui est donc devant l'objectif. Et ce qui est très très important, je trouve, lorsqu'on commence une séance, c'est de bien spécifier que ces photos, après, elles sont à elle et pas à moi du tout. Que c'est son image et qu'elle, on est absolument la seule à avoir le contrôle et la seule maître ou maîtresse. Et moi, je n'ai plus aucun droit à partir du moment où je les envoyais, elles ne m'appartiennent plus. Donc, il n'y a aucune obligation de les diffuser. On peut très bien les garder entre nous, on peut les oublier, elle peut me demander de les supprimer de mon ordinateur ou de là où je les stocke. Ça permet de plus explorer aussi, d'être plus libre et de se lancer dans la séance à corps perdu. C'est le cas de le dire, et ensuite, de pas être en retenue, et je trouve justement, c'est hyper intéressant de dire ça, parce que, de penser à ça, parce que on est souvent dépossédé de notre image, et c'est important de remettre justement cette image entre les mains des personnes qui posent. Donc, il n'y a aucune obligation à rien, et Instagram, c'est absolument secondaire.
Pépites.
Donc on peut trouver certaines de tes créations sur ton Instagram. Et j'ai vu aussi que depuis quelques temps, tu parles beaucoup de vulve.
Ouais.
De douleurs vulvaires.
Ouais.
Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire les enjeux d'un point de vue de santé publique selon toi?
Alors, je travaille dans une boîte qui s'appelle Vulvae, V-U-L-V-A-E, pour celles que ça intéresse, et qui s'occupe en fait d'accompagner des personnes qui ont des douleurs vulvaires chroniques. En fait, les douleurs vulvaires sont très mal connues du grand public, mais aussi du corps médical. Et au même titre que l'on a entendu parler d'endométriose, il y a aussi énormément d'errances thérapeutiques sur ces douleurs-là. Donc ces douleurs qui sont chroniques, qui peuvent être externes, internes, qui peuvent être spontanées ou provoquées. Spontanées, ça veut dire qu'elles peuvent se déclencher à n'importe quel moment de la journée, ou provoquées, ça peut être par un contact, par une activité, par une relation sexuelle, une pénétration ou une tentative de pénétration. Et en fait, ces personnes se heurtent à beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Parce que le corps médical à ce jour est très peu compétent pour diagnostiquer et prendre en charge et donc mettre en place les soins adaptés pour ces personnes qui souffrent en fait au quotidien. Et en fait ça c'est basé sur la méconnaissance du corps des femmes. La femme, alors bon, le corps des femmes, le corps des personnes à vulve et à utérus, parce que ça, évidemment ça concerne des personnes qui ne se ressentent pas femmes. Au même titre que l'endométriose, je prends cet exemple qui est très célèbre. En fait, il y a cette énorme mauvaise représentation ou manque de présence dans la recherche du corps dit féminin qui fait qu'en fait, on a beaucoup de retard dans la prise en charge et dans le diagnostic de pathologies qui existent, qui font souffrir, qui impactent très fortement la qualité de vie et qui n'ont pas encore de solution, en tout cas pas de consensus au sein du corps médical. Donc ouais, donc c'est important de représenter en fait cette douleur quelque part, comme le corps féminin ou le corps peut représenter en général.
C'est déjà tabou de représenter la vulve, alors ouais. Les douleurs qui concernent la vulve, c'est vrai. Mais
c'est très lié.
Peu parler.
Ouais, en fait les douleurs c'est très lié à la méconnaissance parce que peu de représentation, ça induit peu de connaissances ou une mauvaise connaissance de soi et donc une mauvaise gestion de ses symptômes. Quand tu ne sais pas comment tu es fait. Tu as du mal à localiser et à comprendre ta douleur et donc encore plus de mal à agir dessus et à aller chercher les bons acteurs ou les bons traitements.
Très bien. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Vulvae peut-être?
Ouais.
De l'histoire de Vulvae, de ce que c'est
Ouais, avec grand plaisir. Alors je ne serais pas la mieux placée pour en parler. Je pense que Paola Cravero, qui est donc la CEO, la cofondatrice de Vulvae, pourrait bien mieux en parler que moi. Donc celle qui a créé ce projet, elle est partie du constat, pardon, je cherchais mon mot, du constat qu'il y avait énormément de mauvaise compréhension des symptômes du corps dit féminin et qu'il y avait aussi une mauvaise prise en charge, un mauvais accompagnement des symptômes et donc elle a commencé par fonder une association pour reprendre le droit des patients et le droit à l'accès à la santé. Et ça a abouti à un projet sur les douleurs vulvaires. Donc, par douleur vulvaire, il y a la vulvodynie, qui est une douleur qui n'a pas de symptômes physiques. On ne voit pas ou peu de choses sur la vulve. Mais aussi, on parle de vaginisme. Donc, le vaginisme, c'est un souci qui entraîne des difficultés de pénétration, voire une impossibilité de pénétration. Et voilà, toutes les pathologies vulvaires qui vont induire des symptômes douloureux. Voilà, donc ça, ça a été le point de départ. Le point de départ, c'est l'application qui permet de suivre les douleurs au quotidien. Donc, rentrer ces symptômes, ces traitements, ce qu'on met en place au quotidien pour garder un œil sur comment on va. Et donc, améliorer ce suivi, améliorer aussi l'alliance thérapeutique lorsqu'on utilise cette application avec ses soignants. Et récemment, un programme d'accompagnement thérapeutique qui permet d'agir concrètement sur ces douleurs en autonomie et d'apprendre à mettre en place des soins physiques, mais aussi à prendre soin mentalement de soi-même, moralement, et de réexplorer aussi le plaisir et la sexualité différemment, parce qu'on est sur un schéma qui est très, très basique et très hétérocentré, avec une pénétration qui est au centre de l'accès au plaisir dans l'idée collective. Et réfléchir à ça, remettre en question un peu cet imaginaire érotique, c'est hyper intéressant aussi pour renouer avec le plaisir.
Donc, que ce soit dans la photo ou dans ton choix d'aller travailler chez Vulvae, c'est quand même des choix qui sont politiques.
Oui, le corps des femmes et le corps des personnes à vulve et à utérus est politique. ça c'est sûr. En fait, reprendre du contrôle sur sa santé, sur ses symptômes, sur la perception de soi, sur comment on va être perçu aussi, et sur sa sexualité et son plaisir, c'est forcément politique, parce qu'en fait, on est dans une société qui est très hétérocentrée, qui est très tournée sur le plaisir masculin et sur les privilèges masculins, enfin, en tout cas six hommes hétéros. En fait, il y a besoin de reprendre ce pouvoir, un petit peu de force parfois, pour être reconnu, pour être entendu et pour obtenir des solutions. Et ça va passer par la représentation. Ça va passer par une représentation plus ou moins violente. La photo est une façon de représenter qui est peu violente, mais qui peut être très efficace. Et sinon, ça va être militer, en fait. C'est du militantisme de représenter et de parler de choses dont on ne parle pas. Même si c'est un militantisme confortable, parce que c'est un militantisme qui est protégé par un écran et qui est derrière des réseaux sociaux, ça reste épuisant parfois de devoir se battre pour obtenir la reconnaissance d'une souffrance qui est soit une souffrance de non-reconnaissance, soit une souffrance physique, de symptômes qui ne sont pas connus, pas entendus et pas soignés.
Obtenir et aussi garder ce qui a été obtenu, parce que c'est toujours remis en question.
Ouais, en permanence. On en parle beaucoup actuellement.
On en parle beaucoup actuellement avec notamment l'IVG.
L'IVG aux USA, qui est très représentatif. En fait, tous les droits qui sont... alors les droits des femmes, les droits de personnes avec utérus, à nouveau, si on ne veut pas genrer, et c'est important de ne pas le genrer. En fait, je pense que c'est Simone de Beauvoir qui disait ça, en fait... rien n'est acquis pour toujours, et surtout les droits des femmes qui peuvent être retirés dès la moindre crise, qu'elle soit sanitaire, économique, politique, une guerre. En fait, c'est les premières personnes à trinquer, c'est les premières qui vont être à nouveau punies et dont on va retirer les droits. Donc c'est important de lutter en permanence, parce qu'en fait on voit que ça peut évoluer, ça peut régresser très très rapidement, quoi.
Pour terminer, le mot pépite, ça t'évoque quoi à toi ?
Quand tu m'as dit le mot pépite, ça m'a fait penser à quelque chose de très précieux et même de brillant, en fait. Quand j'entends pépite, j'entends trouver la pépite et trouver la perle rare aussi par extension, donc plutôt quelque chose de très positif et plutôt quelque chose de très valorisant quand on t'associe à une pépite, j'imagine. Et sinon, une pépite de chocolat, évidemment.
Quelles sont tes inspirations du moment ?
Alors, actuellement, j'écoute Nelly de Pomme, qui me fait beaucoup, beaucoup écho.
Ah, magnifique.
Ouais, qui est récente, là, qui vient de sortir et qui est donc très en vogue. Et parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Nelly Arcan et ça me parle beaucoup son rapport au corps et son... et sa façon de se représenter au monde. C'est très triste, ça fait beaucoup souffrir, et en fait c'est très inspirant de voir à quel point ça peut être destructeur de coller à des stéréotypes, et pourquoi c'est important d'essayer de s'en défaire. Donc la chanson de Pomme qui lui rend fémage, pour remplacer le mot hommage, me touche beaucoup actuellement. Et en livre... j'ai terminé la semaine dernière La pensée straight de Monique Wittig, qui a beaucoup remis ma perception de la sexualité en question. Et je pense en effet que la sexualité est aussi politique, comme tu disais, sur la représentation du corps et le soin du corps. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, la première phrase du livre est incroyable. Déjà, en fait, rien qu'en lisant la première phrase, tu comprends qu'on a beaucoup à re-questionner dans la façon dont on relationne entre nous. L'hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes.
Cette idée, pour moi incontournable, se dégage peu à peu des essais politiques de ce recueil. Dans une situation désespérée comparable à celle des serfs et des esclaves, les femmes ont le choix entre être des fugitives et essayer d'échapper à leur classe, comme font les lesbiennes, et ou de renégocier quotidiennement, terme à terme, le contrat social.
Je suis Marie Bibila, élève de la promotion 2022 du Master 2 de Management de la Technologie et de l'Innovation à l'Université Paris-Dauphine et aux Mines Paris-Tech, MTI pour les intimes. C'est Jérôme Anton qui a monté les différents épisodes du podcast. Il a aussi composé le jingle de Pépite avec Maxence Duhamel-Carpentier. On les remercie beaucoup pour ça.